Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Bonjour, je suis Raphaël, le coordinateur d'Odyssée, la coopérative de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte du monde de Emma Collet, grande militante écolo, des grands jeux agricoles comme faucheuse volontaire et en lutte contre les OGM. Bon, on se connaît bien parce que Emma participe régulièrement aux Odyssées thématiques que j'organise tous les mois pour se faire rencontrer les acteurs du territoire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ses idées. Mais plus que de ses idées, nous allons parler de ce qu'elle fait concrètement dans le cadre de sa vie professionnelle. Parce que être engagé, c'est aussi et surtout adapter ses actes à ses idées. C'est aussi faire de son mieux avec le monde existant. Donc bonjour Emma.
Bonjour Raphaël.
Et bienvenue à toi.
Merci.
Alors, commençons par dresser le tableau. Je sais que tu es une joyeuse apicultrice, parce que tu utilises ce petit jeu de mots apicultrice. Mais alors, depuis quand fais-tu ça ?
Alors oui, j'essaye d'être happy, même si le monde d'aujourd'hui n'est pas évident. Il s'agit d'une reconversion professionnelle. J'avais fait des études scientifiques pour être vétérinaire. Puis j'ai fait des études d'éthologie, qui est l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. Et j'ai découvert l'apiculture il y a une dizaine d'années, par accident. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et ça a été un coup de foudre imminent pour ce petit monde invisible.
D'accord, proche des animaux, mais dernièrement des insectes.
Ouais.
Okay. Et pour toi, alors, c'est quoi les grands enjeux pour lesquels tu es militante ?
Alors, pour moi, je milite au quotidien pour une transformation des paysages agricoles français, parce que c'est d'une tristesse, une tristesse qui me touche beaucoup. En fait, on voit la monoculture partout. Et qui dit monoculture veut dire manque de ressources pour les abeilles. Et c'est mon métier. Je suis témoin au quotidien du manque de ressources pour les abeilles, la pollution du milieu et victime également du changement climatique. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et apiculteur, on est en première ligne de ces observations, de ces constats.
Donc les abeilles, c'est la biodiversité. Ça veut dire que ça attaque la biodiversité et ça arrive jusqu'au cheptel agricole.
Absolument.
D'accord. Donc pour toi, c'est le grand jeu écologique que tu vois, pour lequel tu milites. Et donc, ça veut dire qu'être écolo, c'est être apiculteur, je veux dire, c'est être écolo ?
Non, pas forcément. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Déjà, selon nos lieux de vie, ben, effectivement, c'est plus ou moins compliqué. Je ne suis pas écolo. C'est difficile d'être écolo parce que déjà, on pratique une apiculture transhumante, c'est-à-dire qu'on déplace nos ruchers au gré des saisons et des cultures. Et personnellement, ça, c'est quelque chose que je subis, ça ne me convient absolument pas. On devrait pratiquer, comme il y a une cinquantaine d'années, l'apiculture locale, parce que les champs étaient variés, les cultures étaient variées, les ressources étaient variées, il n'y avait pas de fauche systématique, il y avait beaucoup moins de pollution, pesticides, et donc les abeilles avaient à manger toute l'année.
D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, cette question de monoculture, ça peut s'appliquer aussi à l'apiculture ou c'est juste l'apiculture qui empathie ?
L'apiculture empathie. En fait, ce mode d'agriculture dit moderne aujourd'hui, c'est vraiment du has-been. Il faut quand même savoir que 70% de l'agriculture mondiale est produite par des petits paysans et qui ont moins de 2 hectares en surface cultivable. Et ils cultivent sans pesticides, sans produits, et avec leurs propres semences. Et cela représente 25% des terres cultivées. Donc nourrir la planète avec une agriculture paysanne, c'est possible. Mais ça, en France, pour l'instant, on va à l'encontre de ça. Et l'apiculture, les abeilles, les pollinisateurs en sont affectés.
Par contre, l'apiculture, ça fait partie du domaine agricole, quand même.
Oui.
Donc on peut dire que aussi la pratique de l'apiculture peut avoir un impact sur la biodiversité.
Oui, alors il y a deux sortes d'apiculture. Hein. Il y a quand même, faut pas oublier, il y a l'apiculture intensive avec les apiculteurs qui ont 1000 ou 2000 colonies, c'est énorme. Moi, j'en possède en moyenne entre 50 et 70. Ça fluctue comme les cours de la bourse et je trouve que c'est du travail de s'occuper d'elles, de leur trouver des emplacements dits propres et ce n'est pas facile. même bien qu'étant certifié en AB et travaillant sous mention de nature et progrès, on a de plus en plus de difficultés de trouver des zones préservées justement de ces grandes cultures.
Et pour gérer le cheptel, il y a des systèmes avec des vétérinaires, des choses comme ça. Comment ça marche?
Non, on peut faire appel à un vétérinaire sanitaire quand on a des problèmes de maladie, mais l'apiculteur est formé aujourd'hui pour bien connaître les maladies et les problèmes des abeilles.
Donc c'est l'apiculteur qui est autonome sur la gestion de son cheptel, sur savoir s'il fait des ruches nomades ou des ruchers fixes.
Oui,
tout ça,
la volume, on n'a pas de compte à rendre.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Sauf peut-être si on a un label. Par exemple comme Nature et Progrès, des choses comme ça, où on n'a pas le droit de faire certaines choses.
Oui, absolument. C'est un cahier des charges des plus restrictifs dans beaucoup de domaines de culture, mais l'apiculture en particulier. Et ça peut avoir l'air d'une contrainte. Pour moi, ça ne l'est pas. Elle correspond simplement à ma philosophie de vie, qui est surtout de ne pas exploiter. Dans mes études de jeune adulte, j'ai fait une maîtrise en sciences techniques de production animale. Et ce terme « production », c'est absolument horrible et ça me choque encore aujourd'hui quand on dit un agriculteur est un exploitant agricole. Je ne souhaite absolument pas exploiter qui que ce soit ni quoi que ce soit.
Ok, en tout cas, ça veut dire que quand même, tu fais de l'élevage d'abeilles.
Absolument.
Au-delà de faire de la production de miel.
Voilà, je fais de la production de miel, mais j'ai envie avant tout d'accompagner mes colonies, en fait, et non pas les maltraiter. Parce que je pense que l'agriculture moderne, et je pense que c'est également le cas quand on s'occupe des cultures végétales, on maltraite le vivant, on maltraite les sols, on maltraite la biodiversité, et par voie de conséquence, on maltraite la santé des humains.
Oui, parce que ces petites bêtes, les insectes, font partie de notre écosystème, ils sont tous indispensables. Et à ce propos, il y a une petite chanson que nous connaissons bien, mais les auteurs sont inconnus.
C'est joli. Je me suis trop penchée au-dessus du vide ordure et je suis tombée dans un étrange pays. C'est le pays de la poubelle magique. J'ai rencontré des êtres fantastiques et voilà ce que j'ai appris. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées.
Moi je m'appelle Mouchomme, je suis une mouche verte. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique.
Et toi, quel est ton nom?
Je suis Morbac le Morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Mouchomme. Les insectes sont nos amis, comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet Mouchomme.
Et nous voilà de retour, mais pas avec Chantal Goya, mais bien avec Emma Collet, apicultrice dont le chant engagé et les actes dépassent largement la scène et le spectacle pour se concrétiser sur le terrain. Voilà, on peut en rire, même si c'est un sujet qui peut être aussi très sérieux. Donc Emma, toi tu viens de nous dresser un portrait rapide de ton métier en lien avec tes engagements écologistes et écologiques. Et il y a pas mal d'enjeux dont tu nous as un peu fait le portrait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, comment tu pratiques ton métier, ce métier d'apicultrice, comment tu le fais concrètement, comment ça marche, les différences par rapport à ce qui existe, qu'est-ce que tu fais toi?
Déjà, j'ai un petit cheptel apicole. Je ne fais pas partie des co-exploitants agricoles à titre principal. Je suis cotisante solidaire pour l'instant et je souhaite le rester. Mes pratiques, en fait, je connais toutes mes colonies, une à une. Je connais leurs faiblesses, leur historique. Voilà, c'est un petit peu comme quand on a une famille nombreuse. Et je tiens absolument à rester dans un cadre de respect, de préservation, en suivant des cahiers des charges qui me guident aussi dans mes pratiques, et pas oublier les valeurs fondamentales de respect du vivant. J'aimerais à terme ne plus transhumer mes ruches, avoir des ruches fixes sur notre territoire de la Haute-Vallée. Donc ne pas être obligé de faire une heure de route à minima pour aller visiter mes ruches, que ce soit en été ou en hiver, bien que tous ces emplacements restent sur le territoire audois. Je trouve ça aberrant de faire autant de kilomètres.
Toutes tes ruches sont transhumées ?
Pour l'instant, j'ai deux ruches fixes.
D'accord. Voilà, les ruches de combien de ruches à peu près, les fixes ?
En moyenne, entre 15 et 20.
D'accord.
Voilà, donc c'est des petits ruchers. Il faut savoir que les apiculteurs transhumants qui ont beaucoup de matériel, des camions, des grues, tout ça, eux, ils se déplacent à coup de 50 et 100 ruches. Donc vous imaginez la pression locale sur un environnement quand vous avez tout ça multiplié par en moyenne 40 à 60 000 abeilles par ruche, l'impact que ça a sur les autres insectes avoisinants, les autres pollinisateurs qui sont tout aussi indispensables, ils sont complémentaires.
Oui, donc en fait, ta manière de faire des ruches qui se déplacent, nomades par exemple.
Transhumantes.
Transhumantes, voilà. Il faut faire attention à son impact là où on va. C'est-à-dire que les abeilles elles-mêmes, elles pollinisent, mais si elles prennent toute la place, elles vont empêcher les autres pollinisateurs.
Absolument. En fait, elles prennent de la ressource aux autres pollinisateurs parce qu'évidemment, toutes les abeilles ne mangent pas, ne butinent pas toutes les fleurs. Elles ont des fleurs sélectionnées qu'elles préfèrent. D'autres pollinisateurs ont aussi des préférences, mais il y a aussi des variétés de fleurs qui profitent à beaucoup de pollinisateurs.
D'accord. Donc toi, tu fais de préférence des petits ruchers fixes.
Oui.
Avec quelques ruchers nomades,
transhumants. Voilà.
Mais ton objectif, c'est plutôt d'avoir plutôt des ruchers fixes.
Absolument. Et puis bon, il y a quand même, faut être honnête, je suis un petit peu égoïste dans cette histoire, parce que une transhumance, c'est beaucoup d'efforts physiques.
Oui, c'est du travail.
Mais il faut pas oublier que c'est beaucoup de stress pour les abeilles qui arrivent, qui se réveillent le matin, et puisqu'on transhume la nuit, il faut que tout le monde soit rentré à la maison. Et le matin, quand elles découvrent leur nouvel environnement, c'est l'affolement. Elles sont en situation de stress pour trouver des nouvelles ressources. Et quand même, il a été démontré que cette découverte-là, ça les booste aussi, ça les stimule. Mais booster, c'est pas toujours positif. Faut savoir que ça les épuise également. Donc, ça raccourcit aussi leur durée de vie.
Ah oui, mais par contre, si toi, tu vas avoir des petits cheptels en fixe, il faut en avoir un petit peu partout. C'est-à-dire que toi, est-ce que, avec ce que tu as, quand tu dis une soixantaine d'abeilles, est-ce que ça, c'est possible de vivre de la production de miel de cette quantité ?
Avec une soixantaine de colonies, non, mais dans la mesure où on réduit énormément nos coûts de déplacement, et qu'elles sont en meilleure santé, donc le temps passé également, oui, on peut mieux en vivre, mais je n'aspire pas à vivre que de la production de miel. J'adore cette activité, je ne peux absolument pas imaginer m'en passer un jour, quand bien même j'aurai un super plan financier, j'aimerais avoir toujours des abeilles dans mon jardin et manger de mon miel.
Alors explique-nous, comment est-ce que, à ton avis, tu pourrais, quel type d'activité tu pourrais faire pour, comment est-ce que ce métier d'apiculteur peut être viable avec des petites colonies comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de le faire en plus d'une autre activité ou une autre activité agricole ou comment est-ce que toi tu pourrais fonctionner avec ça?
Alors pour l'instant, je peux imaginer, mais je me le refuse, qu'il faudrait une autre activité complémentaire à côté. Mais ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est le partage de ces connaissances, c'est le partage des savoirs, des savoir-faire, l'échange des pratiques, pour inciter les citoyens de notre territoire, montrer l'exemple qu'en fait, on peut avoir des petites ruches chez soi, accompagner ces colonies. Parce que quand on observe la vie des abeilles, inévitablement, ça nous rend très sensibles à l'environnement, à la diversité botanique, les ressources et la pollution. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, là, quand tu évoques avoir des petits ruchers un petit peu partout autour de chez moi, même sur le territoire de la Haute-Vallée, où il y a énormément d'efforts qui sont faits, et je pense qu'il fait mieux vivre chez nous qu'ailleurs, hein, on va pas faire... enfin oui, on peut crâner un peu avec ça, mais malgré tout, il y a beaucoup trop de pesticides toujours employés dans les cultures. On le voit régulièrement avec ces champs de Roundup là, pendant l'hiver pour désherber. Moi, ça me fend le cœur et à cause de ces pollutions-là, on ne peut absolument pas implanter des abeilles n'importe où. Et bizarrement, aujourd'hui, En fait, dans les villes, les petites villes deviennent un milieu sain pour les abeilles parce qu'il y a beaucoup de diversité. Les gens mettent des fleurs, il y a des arbres qui sont plantés, les communes font des efforts de ce côté-là. Et il y a de la ressource. Et le monde agricole, le paysage agricole, lui, il est vraiment défavorable au bien-être des abeilles et au développement. Donc ce que j'aimerais, c'est rendre les citoyens sensibles, attentifs à la vie des abeilles et avoir envie d'en faire leur promotion, dans le sens c'est grâce à elles que nous avons de la diversité alimentaire aujourd'hui. Nous sommes complètement dépendants de ça pour manger et qu'on peut chacun y subvenir et former ces personnes à minima, parce que c'est quand même devenu un métier assez technique, pour être autonome à leur tour.
D'accord, donc ça veut dire que, si j'ai compris, les villes, en fait, il y a moins de concurrence avec les abeilles par rapport à un milieu agricole qui, lui, peut avoir des impacts néfastes sur les ruchers.
En fait, en ville, il n'y a pas de pesticides employés.
Ah oui, il y en a.
Le nerf de la guerre, il n'y en a pas.
C'est moins pollué en ville.
C'est beaucoup moins pollué, malgré les analyses faites avec les histoires de métaux lourds. On a, dans la ville de Paris, il a été mesuré les résidus de métaux lourds dans le miel. Il n'y en a quasiment pas. Il y en a, évidemment. Mais en fait, c'est moins néfaste pour les abeilles et même sur notre santé que les conséquences des pesticides.
Et ça, c'est les pesticides. Par exemple, moi, je sais que d'autres types d'insectes, les insectes saprolixiques, qui sont donc les insectes qui servent à favoriser la destruction des déchets organiques, comme les bousiers ou ces choses-là. Souvent, il y a des morts en masse sur les estives ou des choses comme ça, quand il y a des animaux qui sont traités, et que derrière, on se retrouve avec des champs couverts d'excréments qui ne sont pas en mesure d'être recyclés. Voilà. Est-ce que ça, c'est aussi l'élevage, parce qu'on parle des pesticides, mais est-ce que l'élevage, c'est aussi quelque chose qui peut être un problème pour l'apiculture?
Absolument. En fait, il y a eu une hécatombe d'abeilles il y a 4-5 ans, et ça a été mis en évidence par un docteur vétérinaire apiculteur, Marc-Édouard Collin, qui est de notre département, d'ailleurs, il habite à côté de Narbonne, qui a mis en évidence la présence des vermifuges, des métabolites de vermifuges, qui est l'ivermectine, sur ces gros animaux d'élevage. Effectivement, comme tu dis, ça se retrouve dégradé dans la bouse. Dégradé ne veut pas dire détruit ou neutralisé. Oui. Et les insectes, qui sont à la recherche d'humidité et aiment la matière azotée, viennent s'y abreuver en été. Et donc ça tue les bousiers, les abeilles, les autres insectes qui viennent, comme tu dis. Et on se retrouve avec des champs comme ça et de la mortalité des abeilles, mais par milliers. Ça a été catastrophique. Donc ça, en agriculture bio, les grosses bêtes, elles ont moins de traitement. Elles ont moins d'antibiotiques. Il y a des histoires de dérogation et tout ça. Mais effectivement, il ne faut pas penser que culture végétale et que les élevages animaux posent problème également.
Oh là là.
De par les traitements. Voilà, c'est déprimant, oui.
Et pendant tout ce temps-là, l'urgence est un petit peu là. On est speed, on va à toute vitesse. Mmh. Mais le temps passe aussi vite qu'un vol de bourdon. Le temps passe vite, comme les doigts de Lang Lang sur son grand piano virtuose pour illustrer l'incroyable vol du bourdon composé par Nikolaï Rimsky-Korsakov. Emma est donc apicultrice et tu nous as expliqué les grands enjeux, comment tu pourrais faire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu refuserais de faire dans ton métier, un petit peu toutes ces choses-là?
Alors, je me calque naturellement sur les cahiers des charges Nature et Progrès, mais de toute façon, pour suivre mes valeurs, il y a des pratiques que je ne pourrais absolument pas faire. C'est par exemple mettre mes colonies d'abeilles en étant rémunérées pour polliniser des cultures en conventionnel, sans être certaine que 6 km à la ronde, il n'y ait pas de culture conventionnelle. Je refuserais de pratiquer l'insémination artificielle, aussi fou que ça puisse sembler. On en est là aujourd'hui avec ces petits insectes. On ne parle pas des gros ovins qu'on sélectionne pour leur carrure. Je ne voudrais pas travailler avec des races hybrides réputées être toutes douces parce qu'en fait, ça devient des races artificielles où on s'éloigne beaucoup trop du naturel. Dans mes colonies, c'est des races rustiques, la petite locale noire, hybridée avec le local, adaptée au territoire, au vent, à la sécheresse. Et qui ne fait pas des trop grosses colonies et économe dans la consommation de ses ressources. Ce que je ne pourrais absolument pas pratiquer non plus, c'est couper les ailes des reines. De la reine d'abeille.
Ça se fait
pour pas qu'elle essaime. Simplement, à tout le temps, on est là à contre-nature, aller contre les phénomènes naturels. Alors que ces choses-là, les sémages, on peut le réguler un petit peu sans pour autant mutiler l'animal.
D'accord. On imagine que c'est pas forcément fait par sadisme, c'est fait par intérêt cupide.
Économique.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que toi, tu arrives à mieux en vivre ?
Mais je pense que déjà, de manière générale, pour que les apiculteurs en vivent mieux et plus sainement, c'est interdire dès aujourd'hui les pesticides. Ça, oui. C'est le nerf de la guerre.
D'où ton militantisme.
Absolument, parce qu'il faut savoir que ça a un impact sur les insectes, mais aussi sur notre santé humaine. Ça, on voit des exemples autour de nous tous les jours. Et c'est aberrant qu'à cause de l'enjeu économique des soi-disant pesticides, pour augmenter les rendements culturels, et c'est pas prouvé, on en soit encore là aujourd'hui. Que la santé humaine soit au détriment de l'économie.
D'accord. Alors, ça, je pense que tu pourras pas le changer tout de suite.
Mais on pourrait. Le citoyen, s'il se révoltait, s'il s'y opposait, il pourrait. Ouais. Le changement climatique, effectivement, là, on ne peut pas agir dès demain. On peut améliorer nos pratiques au quotidien. Mais il y a bien un facteur où on peut agir tout de suite, c'est les pesticides. Le frelon asiatique, par exemple, il est installé. Pour s'en débarrasser, ça va être compliqué. Il faut des prédateurs. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir difficilement. Mais les pesticides, demain, ça peut s'arrêter.
Bon, on pourrait facilement, sauf qu'en attendant, l'interdiction des néonicotinoïdes a encore été repoussée. Donc,
le glyphosate aussi.
Tout a été repoussé.
Et les OGM par le Parlement européen va statuer à la fin du mois sur leur déréglementation. J'espère qu'ils ne seront pas déréglementés. Déréglementés, ça veut dire qu'il n'y a plus de traçabilité, plus d'étiquetage et que ça peut être mélangé sans qu'on puisse savoir à des cultures AB.
Et toi, par contre, tu proposes, en attendant, de faire d'autres activités qui seraient d'accompagner des personnes pour des ruchers domestiques, des petites choses comme ça. Donc toi, si on a envie de pouvoir travailler avec toi pour que tu puisses faire ton... Chez moi, j'ai une ancienne maison où il y avait avant une ruche dans le mur. On pouvait ouvrir par l'intérieur et les ruches pouvaient sortir. Et moi, je me dis, j'ai envie de la réinstaller. Est-ce que je peux te contacter ? Tu vas m'aider ? Et comment les autres personnes, les auditeurs, pourraient te contacter pour faire ça ?
On peut me contacter préférentiellement par mail, parce que j'ai pas beaucoup de chance. J'habite en zone blanche, donc de mon nom, Emma, 2MA.COWLEY11@gmail.com.
Très bien. Et si vous n'avez pas bien réussi à noter, vous pouvez aussi nous contacter à contact@odyssée.fr, AUDY2S2ES.fr.
Oui, où nous sommes régulièrement amenés à parler de l'alimentation et des abeilles, puisque c'est indissociable. Ça me ravit, cette communication que vous faites sur le territoire.
Et oui, avec par exemple l'Odyssée thématique sur les insectes du mois de février. Donc je te remercie beaucoup Emma pour ce témoignage, et je remercie aussi Philippe à la technique. Et je vous dis au revoir et à bientôt.
C'était le MAC de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingo d'Ocnarbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.